Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Daniel Tamizoni.
Bonjour à toutes et à tous. Les titres de votre journal. Situation tendue hier à Sake, en territoire de Massissi. Nous sommes dans le Nord Kivu. La population du village Rutoboko soupçonne le détournement par les autorités locales de l'assistance humanitaire dont le chef de l'État acheminé par le ministre des Affaires humanitaires. La police a beau tirer en l'air pour disperser les manifestants. Fini la grève dans les écoles publiques de Kisangani et de Mbandaka. Les enseignants Sieko de Kisangani disent reprendre le service pour ne pas sacrifier les enfants. À Mbandaka, la reprise est consécutive à la prise en compte par le gouvernement des revendications des enseignants. Lutte contre le cancer du sein et de l'utérus. Nous en parlons dans ce journal avec notre invitée. La présidente de l'ONG, Eli Kenabiso, sensibilise les femmes contre le cancer à l'occasion de Octobre Rose avant de procéder au dépistage gratuit. Voilà pour les titres. Toutes et à tous, bienvenue à cette édition sur Radio Kapi. La situation est restée tendue hier mardi dans la cité de Sake, à environ 30 km de Goma, en territoire de Massissi. La société civile parle du mécontentement de la population du village Rutoboko à 3 km de Sake. Elle s'insurge contre le détournement par les autorités locales de l'assistance humanitaire acheminée lundi par le ministre des Affaires humanitaires Steve Mbikayi, dont du président de la République, aussi distrait de récentes inondations dans le groupement Kamurunza. La police a tiré en l'air pour disperser les manifestants, mais sans succès, affirme notre source. Bernadine Diambou nous fait le point de la situation.
Certains gens de Rutoboko, Sake et Kimoka ont barricadé ce matin l'axe Sake-Massissi. C'est pour dénoncer ce qu'ils qualifient de détournement de l'assistance humanitaire acheminée par le ministre Steve Mbikayi des Affaires humanitaires, un don du chef de l'État Félix Tshisekedi, selon notre source. Même si la distribution proprement dite n'est pas encore effectuée, déjà selon quelques indiscrétions, chaque famille pourrait bénéficier uniquement de 5 tôles, 5 chevrons et 5 planches pour la construction de leur maison détruite par la pluie diluvienne, chose que la population n'a pas digérée. En en croire la société civile locale, jusqu'à cet après-midi, la tension n'a pas encore baissé. La population en colère demande l'arbitrage des autorités afin que la distribution soit équitable. La police a tiré des coups de balle, des sommations pour disperser les manifestants, mais celle-ci a résisté, a-t-elle déclaré. Signalons que cette assistance est composée de vivres et non-vivres, notamment des tôles, des planches, des sacs de maïs, des bidons d'huile, végétales, des clous, d'habits, etc. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Et merci Bernardine de suivre pour nous cette situation qui est restée tendue jusque hier. Dans l'après-midi, nous restons dans la région du Nord Kivu. 20 combattants Maïmaï du groupe Congo et Bébi sont arrivés depuis lundi à Butembo. Ils sont partis de Ndiapanda dans la chefferie de Baswara où ils vivaient en errance après avoir subi l'attaque de notre groupe Maïmaï à Liboyo. Ces combattants sont ceux volontairement regroupés dans la zone depuis plusieurs mois pour attendre le processus de désarmement annoncé par le gouvernement provincial. Ils se disent fatigués des conditions difficiles de survie dans le site de regroupement. Explication de Grace Amzati.
De sa propre bouche, le général autoproclamé Dragon, leader du groupe Congo et Bébi, nous affirme qu'il s'est rendu à Butembo avec ses 19 éléments sur invitation des SIAP DDRC, qui est la commission interprovinciale d'appui au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Dragon s'est dit fatigué de la souffrance endurée à Ndiapanda et à Liboyo, leur premier site de regroupement volontaire. Il dit s'inquiéter également du fardeau qu'ils font porter à la population qui devait les prendre en charge. Contacté, le coordonnateur des SIAP DDRC Luko Jacques indique que la cérémonie de désarmement de ces premiers groupes sera organisée incessamment avec les concours des FARDC et la MONUSCO. Il demande ainsi à tous les autres groupes Maïmaï de quitter la brousse. Le fonctionnaire délégué du gouverneur Ndiapanda Mangure Jipa, d'où vient ces groupes armés, s'est dit satisfait de l'évolution du processus jusqu'à ce stade. Mongama Bangajilo salue également la volonté des dragons d'adhérer à ce processus de paix. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Nord Kivu, nous y restons un instant. Le gouverneur Karli Nzazuka Sivita salue la solidarité internationale dont bénéficie la RDC à travers le travail de la MONUSCO, particulièrement dans sa province, le Nord Kivu. Il l'a dit hier mardi à Goma lors de la cérémonie marquant la célébration du 75e anniversaire des Nations Unies organisée par le bureau de Goma. Occasion pour Nzazuka Sivita de louer la collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement provincial du Nord Kivu dans plusieurs domaines, notamment sécuritaire et de développement. développement. C'est grâce à cette collaboration que le Nord Kivu va surmonter les défis sécuritaires qui persistent à Beni et dans d'autres territoires, a dit le gouverneur pour marquer son optimisme. Carline Zazoukasivita au micro de Mathieu Ilunga.
Ma présence comme gouverneur de province, c'est pour solidariser avec le monde. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays membre des Nations Unies. Et nous avons bénéficié de la solidarité internationale pendant les moments les plus difficiles et nous continuons à bénéficier de cette solidarité par l'entremise de la MONUSCO aujourd'hui dans notre pays, spécialement au Nord Kivu. Et nous avons eu à travailler main dans la main avec la MONUSCO dans beaucoup de secteurs, que ce soit les secteurs sécuritaires, que ce soit aussi le développement, parce qu'au fait, dans la ville de Goma, où on a asphalté certains avenirs de la ville de Goma. Et nous avons encore besoin de la paix et de la sécurité dans la province du Nord Kivu. La raison même de ma présence ici, pour continuer à solidifier les relations qu'il y a entre les bureaux de la MONUSCO ici à Goma et à Beni et notre province, et à ce qu'il y ait plus d'efforts dans le cadre du rétablissement de la paix à province. Nous travaillons d'une façon harmonieuse, mais devant les défis que nous avons de la sécurité à Beni, à Rutshuru, à Massissi, ici et sur l'ensemble du territoire de notre province, il y a encore beaucoup à faire et nous pensons qu'ensemble avec la MONUSCO, nous pouvons y arriver.
Le président de l'Assemblée provinciale et les hauts cadres de l'armée et de la police étaient également de la partie, sans oublier les agences du système des Nations Unies. Des exposés et projections vidéo ont permis aux uns et aux autres de se faire une idée de la contribution et le travail des Nations Unies en RDC. Allons au Parlement où s'est clôturée hier mardi à l'Assemblée nationale l'affaire Minembwe. L'auteur de l'interpellation invite le ministre Azarias Rouberoy à tirer les conséquences de cette situation pour démissionner par lui-même. Le député Moïndo Zangi conclut que le ministre d'État à la décentralisation est tombé dans un conflit d'intérêts utilisant l'affaire Minembwe pour son propre compte. L'élu de Béni recommande aussi que le décret portant création de nouvelles communes soit carrément rapporté et corrigé et que l'acte d'installation du bourgmestre de Minembwe soit annulé. Moïndo Zangi au micro de Michel Kifindangoï.
Le fait pour un responsable public de donner des réponses fausses ou incomplètes aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement. On ne peut pas falsifier l'histoire. Lorsque le ministre d'État le dit que voilà, les Belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravie, il veut donc insinuer que nous aussi nous voulons récupérer des terres qui nous avaient été ravies. Quelle va être la réaction des populations locales? Pendant la conférence de Goma en 2008, le ministre a proposé dans les résolutions de la conférence la création du territoire de Minembwe. Donc c'est une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit lui-même ceci: si on démontre que j'ai commis une faute, qu'il y a eu conflit d'intérêts, il a dit, il va démissionner de lui-même. Or, je viens de vous le démontrer, je crois qu'il va tirer des conséquences en démissionnant de lui-même.
Les experts en questions électorales ont élaboré un cahier de charges sur l'organisation des élections en RDC. Ils l'ont présenté au cours d'une matinée électorale des organisations de la société civile, membres de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, AITA, hier mardi, ici à Kinshasa. Pour le secrétaire permanent de AITA, ce cahier de charges sera remis au président de la République lors de consultations politiques en vue de sauver le processus électoral de 2023 en danger. Il propose notamment l'identification de la population et des électeurs dans une année afin de nettoyer le fichier électoral. Jérôme Bonceau explique au micro de Jeff Ngoy.
La question de la Commission électorale nationale indépendante, la question de portefeuille, de l'indépendance de la magistrature et d'autres questions. Et nous, nous avons beaucoup focalisé notre analyse technique sur l'organisation des élections, sur la Commission électorale nationale indépendante pour mettre un contenu technique et mettre dans le référendum. Et dans ce contenu, nous avons dit que la plupart des recommandations se réservaient à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République, mais en entrée du jeu, nous avons fait allusion à ce que nous devons nous investir pour que les élections puissent se tenir en 2023. Et nous avons, avant de les organiser, elles doivent être précédées par l'identification de la population pour que nous puissions avoir un fichier électoral fiable. De ce fichier électoral va nous permettre de procéder à des découpages, au découpage des circonscriptions électorales.
les lieux et les modalités du déroulement des consultations annoncées par le président de la République vendredi dernier ne sont toujours pas connus. Voici à présent 5 jours passés. Cette annonce de Félix Tshisekedi avait suscité plusieurs réactions aussi bien au sein de toute la classe politique que dans la société civile. Certaines soutiennent les consultations et d'autres les rejettent. Dans les états-majors des partis et regroupements politiques, les réunions se multiplient afin de peaufiner la stratégie de repositionnement. Michel Kivinangoy.
C'est depuis l'annonce jeudi dernier par le chef de l'État de son adresse à la nation que le Fonds commun pour le Congo multiplie des rencontres stratégiques. Ce lundi, par exemple, son autorité morale Joseph Kabila a réuni à Kinshasa les responsables de tous les regroupements politiques membres du FCC. L'objectif étant de renforcer la cohésion au sein de cette coalition et consolider ainsi la majorité parlementaire, renseigne l'un d'eux sous couvert d'anonymat. Pour lui, un consigne leur a été donné d'observer la discrétion, de peur de dévoiler leur stratégie. Le FCC, sûr de consolider sa majorité parlementaire, est disposé à appliquer la cohabitation en cas de rupture de son alliance avec les CASH. Ajoute notre source. Joseph Kabila va également rencontrer tous les députés et sénateurs membres du FCC afin de les fidéliser, a-t-il renseigné. Du côté Cap pour le changement, on estime que les consultations avaient déjà eu lieu dans l'informel avant même l'annonce du chef de l'État. Le camp Lamouka, visiblement serein, multiplie des réunions stratégiques. Pour la plupart des cadres de l'opposition, Lamouka ne peut soutenir la démarche du chef de l'État que s'il est sincère et le fait uniquement pour l'intérêt supérieur de la nation.
Allons à présent dans la province de la Tchopo. Les enseignants membres du CIECO ont levé depuis lundi la grève décrétée en début de la rentrée scolaire 2020-2021 dans les écoles publiques. Pendant ce temps, leurs collègues des écoles conventionnées protestantes décident de la poursuivre jusqu'au 14 novembre prochain. Ces décisions ont été prises au terme de leurs assemblées générales respectives. Jacques Moukonkole nous explique.
Les enseignants membres du CIECO justifient la reprise de leurs activités par des raisons humanitaires. Selon Djoué Ditété, secrétaire provincial de ce syndicat, les enseignants ne veulent pas sacrifier les enfants.
8 mois que les enfants sont à la maison, vraiment, ça commence à être des trous. Nous allons continuer, mais les enfants, ils ont d'abord des déficits de l'année passée. Si nous continuons, ça va faire quoi? Vraiment, nous avons aimé que nous sommes en train de tuer les enfants. On ne sait pas, on voit comment si les négociations auront lieu.
Du côté des enseignants membres des écoles conventionnées protestantes, on ne veut pas l'entendre de cette oreille. La grève doit se poursuivre jusqu'au 14 novembre prochain, puisque le gouvernement n'a honoré que partiellement leurs revendications. Gabriel Apama, président provincial du CINEP.
Pour la ville de Kisangani, il n'y a eu que 4 écoles primaires. 3 ont été payées partiellement. Soit 3 enseignants, 8 ou 9 enseignants sur 18 ou 16 enseignants NU. Et dans certaines écoles à pouvoir, au niveau des écoles primaires, 15 sur 15 personnes n'ont été payées.
Alors que le CIECO espère les négociations avec les gouvernements, le CINEP compte évaluer la situation le 14 novembre prochain. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
À l'Équateur, elle est finie. La grève parmi certains enseignants, finie la grogne, voulais-je dire, parmi certains enseignants et élèves qui n'avaient pas encore repris le chemin de l'école depuis le 12 octobre. Le syndicat des enseignants du Congo a appelé ses affiliés à la reprise effective du service mardi à travers toute l'étendue de la province. La décision est tombée à l'issue de l'Assemblée générale tenue lundi à l'Institut technique industriel de Mbandaka. Jusque-là, il réclamait le paiement des nouvelles unités ainsi que les deuxième et troisième paliers de leur salaire. Le CIECO estime que le gouvernement a pris en compte ses revendications et le mot d'ordre de reprise est donné par la hiérarchie du syndicat. C'est ce que va nous expliquer le secrétaire provincial du CIECO Équateur dans notre prochaine édition.
Actualité internationale.
Des heurts se sont produits hier mardi entre les jeunes manifestants et des forces de l'ordre à Douakro, ville du centre-est de la Côte d'Ivoire, bastion de l'ancien président et candidat Henri Konan Bédié à 4 jours de l'élection présidentielle, ont rapporté des témoins à l'agence France Presse. Des jeunes ont érigé des barricades dans la matinée, dans la ville ainsi que sur les routes de la région pour marquer leur hostilité au président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé.
L'invité. Madame Bernadette Chungu, elle, présidente de l'ONG Elikena Bisso, c'était l'invitée de Radio Capi ce matin avec son association basée à Dijon, France et à Kinshasa en RDC. Elle lutte contre le cancer des femmes. Elle en parle au micro de Blaise Chindani dans ce journal.
Bonjour Madame Bernadette Chungu.
Bonjour.
Octobre rose, un mois consacré à la lutte et à la sensibilisation sur les cancers du sein. Vous et votre organisation êtes à Kinshasa pour justement une série d'activités en ces sens. Quel genre d'activités faites-vous et comment cela évolue?
Les activités, bien sûr, vous avez dit la lutte contre le cancer des femmes en général et le cancer du sein en particulier. Les activités se déroulent sous forme de conférences pour la sensibilisation et avec le docteur Dinan que vous aurez le plaisir d'interviewer tout à l'heure, qui est notre oratrice, et des témoignages aussi, que moi-même aussi, je suis un témoignage. Et du coup, ça se passe plutôt bien. À la fin, nous aurons à faire le dépistage. Cette fois-ci, ça sera le cancer du col de l'utérus.
Ok, le cancer du sein et de l'utérus sont parmi les plus courants chez la femme. Quels sont les signes ou les facteurs qui doivent amener une femme ou une jeune fille à la consultation?
Pour le cancer du sein, les signes qui doivent amener, c'est déjà tout ce qui est changement. Le changement de la forme du sein, quand on a une petite nodule qu'on n'a pas d'habitude, il faut toujours aller consulter. Quand on a des manifestations anormaux, la pesanteur de la poitrine, l'affaissement des mamelons, la peau d'orange, comme on dit, l'épaississement de la peau, tout ça, ça doit amener à consulter. Je souligne aussi que toutes les femmes, personnes à risque. Et il y a aussi, comme dans le cas de ma famille, où il y a une prédisposition naturelle. Donc, les gènes de cancer, on est porteur dans ma famille de BRCA, qui a un des gènes qui favorise le cancer des femmes et en général le cancer du sein en particulier.
À quoi est dû le cancer? Est-ce que c'est évitable?
C'est une très bonne question. Le cancer, à la différence du sida, comme j'aime bien comparer les deux, n'est pas évitable. On ne sait pas comment on attrape le cancer. Ça vient parce qu'il y a la définition même du cancer qui est la multiplication anarchique et incontrôlée des cellules qui produisent des toxines qui envoient dans d'autres organes. Donc, on appelle communément les métastases pour provoquer la maladie dans d'autres organes. Pour répondre au cours, on ne peut pas éviter le cancer, mais il y a des facteurs favorisants qu'on peut éviter. En ayant une bonne hygiène de la vie, bonne alimentation, on peut éviter certaines formes de cancer, mais en général, on ne peut pas éviter.
Pour beaucoup, apprendre qu'on est atteint d'un cancer signifie une condamnation à mort. Et c'est réellement le cas ou y a-t-il de l'espoir?
Oui, je dirais il y a de l'espoir. C'est pour ça aussi qu'on veut sensibiliser. On sensibilise pas seulement pour dire aux gens comment il faut pas l'attraper, mais pour dire à ceux qui sont déjà victimes que un cancer découvert tôt, on peut le guérir. Pour le cancer du sein en particulier, maintenant, je peux être dans des pays développés comme la France, on le soigne comme on soigne un gros rhume. C'est vrai que les séquelles sont là. Il y a la mastectomie, l'ablation du sein pour les seins et les autres organes. Pour ceux qui doivent enlever ou on enlève la nodule, et il y a la chimiothérapie aussi, qui est très très lourde à supporter. Mais après, ça reste une mauvaise période passée. Mais après, on peut retrouver la vie. On appelle des malades guéris de cancer, des gens en rémission, parce qu'on dit qu'on ne guérit jamais des cancers, ça peut revenir, mais on peut mener convenablement sa vie après avoir été victime de cancer.
Concernant les cancers, on dit toujours qu'un diagnostic précoce permet de sauver des vies. Et c'est la raison qui vous a poussé à organiser cette campagne.
Tout à fait, parce que le 8 novembre, vous serez invité d'ailleurs au chapiteau des Rubis. On va faire le rendu de nos activités, on va présenter un projet qu'on a de la construction des centres de soins qui sera majoritairement spécialisé en oncologie, donc en cancérologie. Il y aura des témoignages. Vous allez voir ma sœur qui est une très très belle femme. À côté d'elle, je n'existais pas, mais elle a déjà été victime de cancer deux fois. Et ça fait plus de 15 ans. Et c'est une femme normale qui mène sa vie normalement, mariée et très amoureuse de son mari.
Mais quelle suite quand on sait que le traitement est hors de portée pour la majorité des Congolais?
Le problème, c'est celui-là, notre problème vraiment. Et nous allons présenter un plaidoyer que nous demanderons aux gens de nous accompagner. Et votre radio, je pense, sera partie de ces personnes qui seront des ambassadeurs de cette noble cause. C'est à ramener le pouvoir public à considérer le cancer comme un problème de santé publique, comme l'est le sida aujourd'hui. Parce que le sida, à la limite, on peut éviter, on sait comment ça s'attrape. Par contre, les cancers, non. Les malades qui meurent de cancer, on ne reconnaît pas déjà la maladie. Les gens, ils peuvent mourir de cancer sans toutefois consulter parce qu'il y a de l'ignorance. Et si on prend que c'est cette maladie, on le prend comme un problème de santé publique, on le considère par le pouvoir public, la sensibilisation sera faite dans les écoles et partout. Et aussi, ça sera soigné et ça sera un grand pas qu'on aura fait. Et ça, c'est un de nos objectifs.
Merci beaucoup, Madame Bernadette Chongo.
Je vous en prie.
Et Madame Bernadette Chungu de l'ONG Elikena Bissau répondant aux questions de Blaise Chindani. Ce journal à présent terminé. Merci de le retrouver sur www.radiocapi.net.